France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Lemontagnier et Tel Alzial à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Jean-Baptiste Etché par bord à la console. Et tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne nouvelle année puisque nous venons de la commencer.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
D'ailleurs, tes cheveux sont métis, comme moi et comme tes chicots. Tu réponds pas au bigot. Zarmalago est sous pression. Tu te demandes si tu peux me pécho, mais cette poussie peut pas match avec cette dentition. Tu vois que des gosses droites en bac, who's bad, j'ai rentré dans trois comme who's back. Paraît que c'est un combat pour plume, mais y'en a une qui prend plus de place que Who's Bad. Et en plus, il paraît que tu viens de Marseille, donc peut-être que je t'appelle ma gargole. Ce soir à minuit, toi tu finis dans le cercueil, et moi je repars dans le carrosse.
Souviens à toi!
Sinon, à part mes chicots, t'as autre chose à part mes chicots? Rien. Tu vas rien faire ce soir en plus de ça, tu seras ma. Je suis Broly, je fais du trampoline sur toi. Toi t'es sans Goku. Je viens du sud, tu viens du nord. Tu perds le cap, t'es jamais cap. Putain c'est grave, on dirait Superwoman sans la cape. Wow, t'es le générique, je suis l'original. Niquez ta mère.
C'est tout. Lève ta mère, oh là, arrête.
C'est tout, ça va dégénérer la vie de ma mère.
Non, doucement, voilà. doucement, c'est hip-hop, c'est cool. Tout doit bien se passer, c'est hip-hop.
Détends-toi.
C'est que de la musique. C'est de l'amour.
Voilà, je te froisse en rap. La tête de ma mère, je te froisse en rap.
Allez, fille, c'est bon.
Je te froisse en rap.
Peut-être.
Non, je te le dis, je te froisse.
Peut-être. Allez, fille.
T'as eu le temps, Souméa.
Non. On n'est pas là pour ça. On est là, c'est de la compétition, on est là pour kiffer. Là, on est dans le rap, on n'est pas dans une cité où je sais pas quoi, froisse personne.
C'est important, c'est
Il y a
important.
Personne qui va être froissé ou je sais pas quoi, on est là pour faire de la musique. Allez, l'équipe.
Et la vie de ma mère, une battle de rap qui dégénère, extrait d'un programme diffusé sur Netflix. La battle, c'est un petit peu, on va dire, comme la Starac, mais pour le rap. Daniel Adjerad et Julia Celia sont nos invités. Daniel Adjerad pour un essai intitulé Punchlines, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Julia Celia pour un livre sorti chez Archipel Essai, Le rap, littérature du monde social. Daniel Adjerad, pour reprendre le titre de votre livre, qu'est-ce que c'est qu'une punchline? Une punchline, parce qu'il y a un glissement de signification.
À l'origine, la punchline, en fait, c'est une phrase qui est utilisée dans le domaine de la comédie. C'est la phrase qui conclut un sketch comique. Et puis, bon, elle a dérivé vers autre chose. Aujourd'hui, on utilise ce mot pour parler d'une phrase qui est piquante, un peu vacharde. Et moi, ce qui m'avait intéressé dans le livre, c'était tracer toute l'histoire, en fait, de cette dérive. Et puis, du passage par le rap, où, en fait, la punchline va devenir un énoncé qui devient percutant, comme à la boxe. Donc, on vient d'entendre une battle. Donc pour moi, en fait, la punchline, si je devais la définir dans le rap, en tout cas, c'est une phrase qui frappe par ses images, par ses doubles sens et qui a un certain impact.
Et alors, les auditeurs s'en souviennent peut-être, en tout cas certains. Vous étiez venu il y a quelque temps déjà nous parler de Bourdieu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi un amateur de rap? Parce que j'imagine, si vous avez écrit dessus, vous n'êtes pas maso, c'est que vous aimez bien.
Ah, j'adore le rap. Il faut écrire sur ce qu'on aime. En fait,
Y a rien de commun entre Bourdieu et le rap, quand même.
Ah bah, il y a de multiples points communs.
Ah bon?
Ne serait-ce que pour parler d'une forme d'énonciation. Moi, ce qui m'intéresse dans le rap, c'est cette forme d'énonciation et l'économie du langage, pour reprendre des termes bourdieusiens. C'est-à-dire ce qui est autorisé ou non, du point de vue de ce qu'on peut dire. Et c'est marrant parce que dans l'extrait que vous avez montré, on voit bien la bascule. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait, on a le droit d'attaquer son adversaire en suivant certaines règles, qui sont comme à la boxe ou catch, des règles de combat régulées, normées. Ouais. Et puis ensuite, il y a une bascule dans une violence potentielle où, en fait, les émotions prennent le dessus. Et puis là, on revient dans le langage de tous les jours et c'est plus le rap. Donc oui, il y a un lien, moi, enfin, en tout cas pour moi, du point de vue de l'étude du langage propre au rappeur.
Julia Celia, vous avez publié donc un mémoire, votre mémoire de maîtrise consacré au rap francophone. le rap est digne d'intérêt pour un... Je vous pose une question très cloche, mais quand même, je vous la pose. C'est digne d'attention pour un chercheur, parce qu'au premier abord, c'est pas évident.
Oui, c'est vrai que c'est pas évident, et je pense d'ailleurs que le début des années 2020 marque un peu le début de l'intérêt de la recherche académique pour cet objet. Par ailleurs, le postulat qui était le mien dans cet essai, c'était de montrer que le rap intègre à ses logiques poétiques, esthétiques, à la manière dont les textes fonctionnent, des éléments qui viennent de son histoire et qui viennent de la manière dont le genre est apparu dans les années 1990.
Vous dites bien le genre, c'est donc tout sauf un sous-genre.
Oui, je pense vraiment que c'est un genre musical à part entière.
Il faut le répéter parce que le statut du rap peut éventuellement poser question, non ? Je vous pose la question à tous les deux d'ailleurs, Daniel Djerad.
Alors, il a pu poser question.
Maintenant,
personnes
c'est fini, c'est ça, je suis asbine. Mais moi,
non,
je découvre.
Certaines personnes mal intentionnées ont pu parler de sous-culture d'analphabète, en mettant entre guillemets.
Ça, c'est quand même un peu
heureusement, les rappeurs leur ont répondu. Je pense à Youssoupha qui avait répondu à cet éditorialiste en lui disant, en termes rapologiques, on dit ça en termes rapologiques, ce qu'il en pensait. Il voulait lui clouer le bec. Il y avait toute une polémique d'ailleurs là-dessus, parce que dans un de ses textes, il avait dit qu'il mettait un billet sur la tête de celui qui ferait taire cet idiot de, je ne dirais pas son nom. Et en réalité, on avait mal compris cette phrase. Enfin, c'était intentionnel, parce que il y avait eu un procès. On l'avait accusé de vouloir mettre la tête à prix de la personne, alors que pas du tout. En fait, c'est une vieille expression, mettre un billet sur la tête de quelqu'un. Là, il mettait un billet sur la tête de celui qui ferait taire cet éditorialiste. En fait, il pariait comme sur un poulain, en fait. Il allait investir dans celui qui pourrait, avec des mots, le faire taire. Donc, il y a une richesse langagière que parfois on oublie en discréditant cet art.
Mohamed Ali, extrait d'un trash talking à la télévision.
Listen, David, when I meet this man, if you think the world was surprised when Nixon resigned, wait till I whip Fulman's behind. I'm telling you, David, I usually train 6 weeks for fight. I've trained 4 months for fight. I'm chopping trees. I've done something special. I've wrestled with an alligator. I've tussled with a...
I believe you totally. I believe you completely.
I have tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. Now, you know I'm bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Man's in trouble.
Extrait donc d'un trash talking, je le disais. Mohamed Ali, grand champion de boxe, il a inventé le rap, en tout cas le précisément le trash talking.
Le trash talking, oui, c'est un maître quand même du trash talking. Je sais pas s'il a inventé le rap, non. Mais par contre, moi dans mon essai, ce qui m'intéressait, c'était de voir à partir de quand on avait pu utiliser le mot punchline en lui donnant comme ça une dimension liée à la boxe. Et je pense que c'est lié à Mohamed Ali, puisque les premiers articles où on emploie le mot punchline, non plus dans un sens comique, mais dans un sens comme ça sportif, lié au combat, c'est à propos de ce que fait Mohamed Ali quand il attaque ses adversaires avant le combat.
Mais c'est Cassius Clay, c'est ça, hein ?
Exactement.
Parce qu'ils ont plein de... Enfin, ils se nomment même comme il est plein de pseudos, en fait, hein, les rappeurs.
Alors, suite à sa conversion, il avait changé de nom, il s'appelait Mohamed Ali. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait penser dans le rap. Hein, je sais pas si tu... Mais dans le rap, il y a une utilisation des pseudonymes.
Même Julia Chela.
Oui, que Mohamed Ali, c'est une figure de comparaison assez récurrente pour les rappeurs. Quand ils se construisent dans des situations conflictuelles, ce qui fait partie aussi de la manière dont les chansons sont élaborées. On l'a entendu d'ailleurs dans le premier extrait, hein, c'est ça la culture hip-hop, c'est une conflictualité qui est réglée par le travail de la langue. Et puis je pense que dans ces perspectives-là, Mohamed Ali sert souvent de figure de comparaison.
Oui. Si je peux ajouter, je pense d'ailleurs qu'en France, on le dit pas assez, mais je pense que c'est le rappeur Lino du groupe Arsenic qui le premier a utilisé le mot punchline. Et puis Mohamed Ali, c'était l'une de ses références. Enfin, je parle du groupe Arsenic parce que ce sont les premiers à avoir dit qu'il boxait avec les mots et que c'était un art sonique. Et pour ça, il parlait d'arsenic, il joue sur les mots et il boxe avec cette...
Justement, il y a beaucoup de duels linguistiques en fait dans le rap, c'est ça ?
Oui.
Il y a beaucoup de duels linguistiques et puis il y a aussi beaucoup de duels entre différents espaces, je pense, de discours. Je pense notamment à la place qu'occupe la littérature dans le rap, qui sert en fait souvent à créer des effets de contrepoint et à déterminer des pratiques d'écriture, des rapports à la langue qui sont différenciés et qui souvent utilisent par exemple le canon scolaire comme un comparant. Je crois que c'est Booba qui dit « Dis-leur qu'il y a R à Baudelaire et Molière » en érigeant en fait du coup une figure de rappeur en termes de compétences et de maîtrise technique de la langue au-dessus des auteurs du canon scolaire.
Moi j'en ai une autre aussi, parce que je pense que c'est bon de donner des exemples plutôt que de dire punchline. Moi, je pense au rappeur Souffrance qui dit « Je suis le genre de corneille qui s'envole avec une seule plume ». Alors, j'aime beaucoup celle-là parce qu'en fait, elle veut dire plein de choses. Il faut se la repasser en boucle. Il y a des strates de signification. Très simplement, il n'a que sa plume d'écriture. Mais aussi, il est plumé aussi, il n'a pas d'argent.
Alors, ils ont tous des pseudos, mais s'appeler Souffrance, c'est pas rien quand même de se nommer Souffrance.
Ah bah, pour continuer sur sa punchline, lui-même dira qu'il y a laissé des plumes dans sa carrière. Il est devenu assez célèbre, relativement récemment. Mais ça fait très très longtemps qu'il est dans le rap Souffrance, donc c'est un genre, enfin c'est un combat et un art qu'il a poursuivi dans l'ombre pendant très longtemps. Et là, dans cette phrase même, il va jusqu'à se comparer à Corneille, dramaturge. Mais je pense qu'il y a vraiment, t'as raison, de rappeler ce lien avec la littérature et d'analyser les différents sens qui sont imbriqués dans cette langue.
Mais ce qui est incroyable sur le plan littéraire, justement, c'est que c'est pas forcément des gens qui sont allés à l'école et c'est pas là qu'ils ont appris, par exemple, Corneille, mais il y a bien d'autres exemples. C'est en fait plutôt des autodidactes, non ?
Comme disait Booba, un flingue caché dans le bécherel, quoi. C'est Non, mais c'est une autre utilisation de la langue, c'est ça qui est intéressant.
Il y a même des effets de... On pourrait dire de cryptage et de renversement dans le rap qui sont assez intéressants. Un de mes exemples favoris, c'est un extrait de PNL qui dit « Xing, zing, 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 zang, rey, 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 je dis des mots de merde et tu me payes, paye, 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 paye. » Qui est une espèce d'ironie sur le fait que, en fait, les auditeuristes qui maîtriseraient l'argot qu'est employé, en l'occurrence « rey », qui veut dire « frère » au pluriel, seraient en mesure de comprendre la blague, tandis qu'un auditeur, une auditrice qui... comment dire, parlerait plutôt en français, qu'on pourrait appeler standard, serait pas en mesure en fait de résoudre l'humour de cette comparaison entre deux vers dont l'un est sémantisé et l'autre pas du tout.
Le rappeur Nas.
Yeah, yeah. Yo, Black, it's time. Word. It's time, man. It's time, man. Alright, begin. Yeah, straight out the fucking dungeons of rap, where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this shit. No. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition. A pain, I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peacoats. I'm shooting.
Le rap américain, c'est quoi? C'est le milieu des années 70, Daniel Jaran?
Oui, ça commence au début.
À New York?
Oui, à New York, au début des années 70. Ça commence d'ailleurs en lien aussi avec le milieu de la fête, parce qu'on est souvent associé, on a souvent associé le rap. À juste titre d'ailleurs à la critique sociale, mais c'était aussi une manière d'animer les fêtes et puis les blocs parties. Donc voilà, ça apparaît à ce moment.
C'est le rap authentique.
Non, je dirais qu'il y a deux tendances dès le début dans le rap, quoi. Enjailler, comme diraient les rappeurs, ou bien dénoncer.
Alors, le rap francophone, ça, je m'adresse à vous, Giulia Cella, parce que l'émergence, c'est quoi? C'est 20 ans plus tard, quasiment? C'est dans les années 90?
Oui, c'est ça. On associe souvent les figures de IAM ou NTM comme les premiers acteurs, en fait, les premiers artistes rap dans l'espace français, qui d'ailleurs racontent leur voyage respectif aux États-Unis pour en fait comme terminer d'importer le genre musical en France, finir d'apprendre les techniques, travailler avec des producteurs. La face B d'Akhenaton, qui est l'autobiographie d'Akhenaton, parle assez longuement de cet apprentissage américain.
MC Solar, par exemple, c'est peut-être je sais pas si c'est le plus connu du grand public, mais peut-être que oui, non?
C'est possible que ce soit le plus connu, MC Solar.
Est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'il est politiquement correct, MC Solar?
C'est une excellente question. Si je devais me positionner à titre personnel sur MC Solar, je pense que j'aurais quelques réserves, parce que je trouve qu'MC Solar est le bon élève des médias. quand il s'agit de représenter le rap. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de voir comment, dans les médias grand public...
On s'assagit
ou on est élu en tant qu'interlocuteur pour parler d'une certaine manière du rap. Il y a une grande différence, par exemple, dans la manière dont on va s'adresser à MC Solar sur un plateau, ou à Abdelmalik, qui est pour moi très différente de la manière dont on s'adresse à Nekfeu ou au Escrew, par exemple, dans les années, je crois, 2015-2016. Et on voit vraiment une espèce de scission qui est créée par les interlocuteurs entre ce qui serait du rap conscient, du rap poétique, lyriciste, comme on l'appelle, et du rap hardcore, méchant, sale.
Voilà. Etc, etc. Et Julia Tilley et Daniel Adjerad, vous êtes donc nos invités, vous nous aidez à découvrir le monde du rap, pas forcément très connu de nos auditeurs, et pourtant ça vaut vraiment le détour.
J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs,
Je rappelle rue du retrait avec l'ars, mais de la réelle A. Quand j'y repense en vrai, tout a démarré de là. Le A m'a présenté à Bloop et Bloop m'a présenté à Nucky quand il est sorti du star. On a fait un son ensemble, mais on s'est vraiment connecté quelques années plus tard. Le but c'était de devenir riche et faire la musique après. À cette époque, mon gars va Alex, était en cavale et garder un fusil chargé. Parce que je suis fier de ce qu'on est devenu. On n'est toujours pas riche, mais de l'enfer, on est revenu. Je suis fier de la manière dont je fais mes revenus. Plutôt, ce serait la grosse défaite si je retouchais un couteau pour couper autre chose que des steaks. Check, par cette musique, je retrouve ma dignité. Tu perds la tienne quand t'essayes d'imiter. Le style est immaculé, ils vont finir par calculer. Chaque fois je rappe, j'allume un brasier sous leur huc. Je garde un pied calé sur leur nuque. Les meilleurs beatmakers m'appellent pour rafaler sur leur truc. Tu veux rapper comme ça? Va falloir cravacher plus d'air sub. J'essaye de rester rationnel, je peux pas contre mes démons. Si je gagne, je brise des malédictions générationnelles. Entre mes victoires et mes défaites, j'ai un ratio de merde. Augmente mes stats, augmente le thermostat. Homme des collines, où le pêche sort une fiole comme colline. Adrénaline en pique, une grosse dose de sérotonine. Jack, je suis un cascadeur, un stuntman. Pour chasse que le cash ou le sunshine. J'paye de ligne et je prends des grandes rasades. Stuntman Jack, les rimes en cascade. Je mérite une pluie de ruinard. Même si je débatte dans le sac, ça fait des bruits bizarres. J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs.
C'était Jungle Jack et Hologram Low. Le DJ Mehdi, il est mort en 2011. Il avait 34 ans, producteur et compositeur de hip-hop. C'est même une des figures de proue. Une série lui est consacrée sur Arte.
Je m'appelle DJ Mehdi, producteur de rap et de musique électronique.
Il est en studio avec des pitbulls, avec la mafia Kinfry. Et le soir, il va danser avec Cassius et Daft Punk à New York.
À l'époque, il n'y a pas de compositeur. Donc me dire qu'il y a un mec de mon âge qui compose, mais avec quel matériel?
C'est fabriquer un sampler et nous faisait des putains de sons. Avec ça.
C'est Mehdi qui pond le nom.
Headbanger Records.
Il n'y avait jamais eu
une histoire qui fait que des mômes s'intéressent à un label.
Le son de Justice, c'est nous qui l'avons fait. Mais c'est Mehdi qui nous a dit c'est ça.
DJ Mehdi était un génie.
Le monde de la musique est en deuil. DJ Mehdi vient de mourir à l'âge de 34 ans.
C'était quelqu'un qui avait ce truc de considérer que rien n'était impossible.
Faut reconnaître qu'on lui doit tout à Mehdi.
Le prénom Mehdi, ça veut dire rassembleur. Donc il a porté son prénom jusqu'au bout.
C'était un génie, Daniel Adjerad, selon vous?
Clairement.
Clairement.
Oui. S'il avait ce talent de repérer une petite boucle, c'est-à-dire un son qui va lui parler, qui va tourner en boucle dans sa tête, et il se dit, allez, je vais le faire tourner en boucle, je vais rajouter des percussions, même si ça vient aller de techno-allemand, inconnus, là, des artistes pour qui je travaille, qui viennent du 94, et puis ça va leur faire une musique, et ça donne des classiques qu'il a créés. Et pour moi, en plus, cet art, donc je parle du sampling, hein, c'est le fait de prendre un échantillon sonore puis de le faire tourner en boucle pour créer cette musique qui est derrière la parole du rappeur. Et pour moi, la langue du rappeur aussi est une espèce de sampling, j'appelle ça linguistique, c'est-à-dire que on prend des mots et c'est vrai qu'en les assemblant, l'auditeur doit les faire tourner aussi en boucle dans sa tête. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que les meilleures punchlines du rap, pour moi, c'est celles qu'on ne comprend pas tout de suite, et on les comprend bien plus tard. Et pour préparer cette émission, je réécoutais le rappeur dont je vous parlais, Souffrance, et j'ai enfin compris une phrase que je n'avais jamais comprise. Et la phrase est la suivante, il parle mal, il parle de gens, et il dit, il parle mal comme un carte de crédit. Et pendant super longtemps, je me demande,
qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Et en plus, en discutant avec mes élèves, ils ont trouvé direct, ça doit être une question de génération. En fait, on parlait donc de ça, du fait de mal parler, de pas avoir les codes officiels, donc ne pas, comment dire, avoir voix au chapitre, comme si en fait quand on parlait, on nous écoutait pas, comme si on était muet. Et tout de suite, quelqu'un m'a dit, bah oui, une carte qui marche pas, une carte de crédit, elle est muette, une carte muette. Et c'est vrai que le crédit, c'est pas que le crédit l'argent, c'est la reconnaissance. Donc ceux qui ne sont pas reconnus, ils vont pas avoir voix au chapitre, on va pas les écouter. Donc voilà, les meilleures punchlines, je pense, elles doivent tourner dans notre tête pendant longtemps, avant qu'elles nous frappent enfin à contre-temps.
Juliette, c'est là-dedans, dans le rap, il y a une grande mixité de langage, en fait. Il y a de l'argot, il y a du verlan, il y a d'autres langues. Et tout ça fait très bon ménage.
Tout ça fonctionne assez bien ensemble. C'est intéressant aussi de voir peut-être, de réfléchir à la question dont les nouveaux publics du rap se sont formés. Parce que j'ai l'impression que le rap a aussi fait médiation quand même d'une certaine manière de s'exprimer auprès d'un auditorat qui ne maîtrisait pas les codes de cette langue. Et je trouve ça assez intéressant de voir comment le langage peut se transmettre du bas vers le haut aussi quelquefois.
Et puis pour rebondir, avec beaucoup d'inventivité aussi.
Avec
hein.
beaucoup d'inventivité, ça c'est certain. Mmh. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, Daniel, sur la question de la boucle, le fait que des phrases doivent être mémorables, que des punchlines, on s'en rappelle, j'ai l'impression aussi qu'il y a des micro-histoires dans le rap qui se répètent beaucoup et qui sont partagées par de très différents acteurs et actrices du chant. Je rebondis sur l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure, « Je mérite une pluie de ruinard ». Ça, c'est un aspect qui me fascine, c'est le mélange de mélancolie et de revendications économiques.
Une pluie de ruinard, ça coûte cher. Hein. Le ruinard, c'est un champagne qui n'est pas bon marché. Bon.
C'est certain. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans le rap. C'est la manière dont on va rendre collectif des tentatives de sortir de sa condition, mais d'une certaine manière seulement. C'est-à-dire qu'on ne va jamais chercher à s'assimiler aux dominants. On cherche toujours à représenter des trajectoires qu'on partage avec des pairs et qui sont toujours uniquement motivés par l'appât du gain, par l'économique. Bon, on le voit, justement, je mérite une pluie de ruinard, le nombre de citations, de voitures de luxe, d'habits de luxe, et qui sont toujours en fait des manières de revendiquer la richesse sans vouloir s'affilier à la classe dominante. Et je trouve que ça fait aussi des fois ces effets de rengaine et de boucle qui sont voilà, des micro-récits partagés par plusieurs rappeurs.
Avec des mots qui servent un peu, qui servent aux rappeurs à jongler en quelque sorte. Il y a des jeux de sonorité dans les mots, non ?
Bien sûr. Tout de suite me vient en tête la phrase de Booba, quand un srab est chelou, j'ai un srabisme. Alors srab, ça veut dire frère en arabe. Et donc ça veut dire, quand j'ai un frère qui est un peu bizarre, là, que je regarde un peu de biais, je le surveille, ça fait que mes yeux se croisent et j'ai pas un strabisme, j'ai un srabisme. Et donc là, il y a un jeu sur les sons, sur les niveaux de langue, sur l'origine des mots, qui est assez impressionnant, je trouve.
Et les insultes, il y en a quand même pas mal, elles sont sublimées, les jurons, ils sont pas pris au pied de la lettre, ils sont déconstruits, Giulia Cella ?
Oui, ça c'est une vraie question, surtout quand on interroge le rap par le prisme de la question du genre et de la misogynie, par exemple, parce que c'est vrai que les insultes qui sont misogynes ou putophobes, comme on dit, sont très nombreuses. Un bon exemple, peut-être, pour répondre à cette question, c'est, je m'excuse, ça implique que je jure au micro.
On va mettre des guillemets et on va éloigner les enfants.
Voilà. Qui est l'exemple d'Al Capote qui fait un affreux petit morceau dont le refrain c'est juste dire pute à répétition. Et le refrain se solde par qui sont ces putes, faudrait faire un sondage. Et de manière un peu ironique, je trouve que ça montre bien ce qui se passe avec les insultes dans le rap. C'est qu'en fait, on garde l'invectivité de l'insulte, mais bien souvent, le contenu en fait, sémantique de l'insulte, il est comme vidé. Et je pense que c'est la question que pose Al Capote quand il dit qui sont ces putes, faudrait faire un sondage. C'est, en fait, on sait plus très bien ce qu'on désigne en utilisant ces termes-là. Mais par contre, le type de désignation, lui, reste.
Et sur ces jeux avec les mots, à propos des mots, il est beaucoup question de marque, non? Pas mal quand même dans le rap.
Oui, il est pas mal question de marque parce que c'est toujours revendiqué, je vais faire un jeu de mots moi aussi, du crédit. Donc dans le sens financier et dans le sens symbolique de la reconnaissance et des titres de crédit, les marques sont des vecteurs de reconnaissance. Je voulais aussi rebondir sur la question du juron à déconstruire. Moi j'ai travaillé un peu par pied de nez sur un titre qui justement peut aussi faire grincer les dents des puristes du rap. Dans mon livre, je prends comme fil rouge le morceau « Bonjour » de Vald, un ancien morceau.
Alors on va en parler de Vald parce qu'effectivement, voilà. Vous en parlez beaucoup.
Oui, il déconstruit, il ne fait que respecter. Alors cette fois-ci,
il n'a pas dit
«
Bonjour », du coup il s'est fait niquer sa mère. Vous voyez que j'ai bien appris mon texte.
Voilà, et au bout d'un moment, il nique la mère de sa mère, on ne sait plus la grand-mère, l'arrière-grand-mère, on ne sait plus de quoi il parle, dans quel sens. Et en réalité, quand on analyse le texte en lui-même, il est beaucoup plus drôle et subtil qu'il n'y paraît. D'ailleurs, c'est un texte vulgaire qui est un éloge de la politesse. Parce qu'il n'a pas dit bonjour, c'est ça le problème.
Mais tout à l'heure, on parlait aussi des références. Par exemple, vous parliez, je crois, de cette Corneille. Hein, c'est ça, vous avez parlé.
Moi, j'avais évoqué Corneille.
Non, c'est vous qui avez...
Et
voilà. Ouais. Mais il y a aussi, par exemple, le Orla de Maupassant. Mm-hmm. Il est question aussi de Céline. Ça, c'est Nekfeu qui...
Oui.
Mais en fait, c'est... Encore une fois, c'est pas appris à l'école. Donc c'est une curiosité personnelle qui les emmène vers des textes.
Je me demande si c'est ça ou si c'est aussi une certaine maîtrise de ce qu'on appelle le canon scolaire, quand même, qui est un canon littéraire qui finit quand même toujours par transiter vers le grand public. Et par ailleurs, je pense que dans le cas de Nekfeu, c'est intéressant parce que qu'on parle du Orla ou alors de Martin Eden. Dans sa chanson Martin Eden, je pense que c'est des références littéraires qui viennent aussi se mettre au service de la posture du rappeur. J'ai l'impression que par exemple ce que Nekfeu récupère en par citation en citant Martin Eden, c'est peut-être quelque chose comme le transfuge de classe ou un sentiment de discrépance sociologique. Le Orla, peut-être que c'est...
Le Orla, c'est un conte fantastique de Maupassant.
C'est ça.
Que tout le monde ne connaît pas forcément, d'ailleurs. C'est pas le texte le plus connu de Maupassant.
C'est pas le texte le plus connu. Et qui fait sans doute écho à un motif un petit peu plus largement répandu dans le rap, qui prend d'autres formes dans d'autres morceaux, mais qui est l'idée d'écrire dans un état modifié de conscience.
Il est beaucoup question de... Il y a de la galère, il y a de la précarité. On parle aussi des discriminations sociales, raciales. Aussi, il est question de l'histoire coloniale et quelqu'un comme Frantz Fanon aussi est souvent repris, remodelé, recité, recyclé, je ne sais pas comment il faut dire.
Ouais, tout à fait, ça fait partie aussi de la galaxie des références qui sont utilisées dans le rap, soit pour s'en distancer, soit pour s'en rapprocher. Mmh. Et c'est vrai que pour le coup, les penseurs de la décolonialité ou de la postcolonialité sont assez souvent cités par les rappeurs. Vous avez cité Frantz Fanon, c'est très fréquent. Je pense à Aimé Césaire aussi, qui fait vraiment partie pour le coup là du canon d'auteur qui servent plutôt de support et de soutien. Et on évoquait tout à l'heure Céline, qui est un cas très intéressant.
Il
parce
le
que...
traite mal. Hein. Je sais plus ce qu'il dit, Nekfeu de Céline, fils de pute. Oui, ça y est, j'ai retrouvé.
Il dit que c'est ce un qui fils est intéressant, de pute. Mais en même temps, il dit comme. Donc il y a quand même une volonté de se comparer à Céline, comme pour sélectionner la part de la figure de Céline qui travaille l'argot. Par exemple, la langue plus proche du peuple, on pourrait le dire pour l'expliquer rapidement, tout en refusant l'antisémitisme, par exemple.
Mais la différence est de taille, effectivement. Oui. Le com est important. Oui, Daniel Adjerhan.
Moi, je voulais aussi ajouter quelque chose en disant que, comme tout art, le rap évolue, se transforme, propose de nouvelles références. Et actuellement, tout le rap qui se fait est pleinement inventif. Je pense à un article qui a été écrit pour Musique Journal qui s'appelle Trouble dans le rap, qui fait référence au livre de Judith Butler, Trouble dans le genre, qui évoque une rappeuse, petite sœur, qui traite la question de la question du genre, en fait, de la transidentité, et qui a sorti un album qui évoque des thèmes totalement novateurs pour le rap, qui n'ont jamais été traités dans le rap, avec Femme Togo aussi, c'est un album récent, qui a causé je sais pas comment dire, un émoi dans le milieu du rap, mais qui a, d'une certaine manière, mis tout le monde d'accord. Hein, parce que si le rap, c'est la musique de ceux qui sont minorisés, qui sont violentés, etc., on peut partir dans de nouvelles directions, par exemple celle-ci.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes, le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile, tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances, pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche? Pourquoi pour lui c'est l'équitation, pour moi les bases?
On ne vous demande pas ce que c'est que la ligne blanche. Née sous la même étoile, c'est IAM, c'est un collectif marseillais. Le territoire, là en l'occurrence Marseille, c'est primordial dans le rap. Alors, monsieur est galant, Daniel Adjerad, vous ne le voyez pas, mais il fait signe à Julia de s'y mettre.
C'est une grande spécialiste de SCH, un enfant de IAM, donc je laisse la parole.
Tout à fait. Non, c'est vrai que la question du territoire, elle est importante. Il y a un peu l'opposition classique entre Paris et Marseille, qui a été incarné dans le rap des premiers temps, le rap du premier âge d'or par IAM et NTM, on l'évoquait tout à l'heure. Enfin, qui est une opposition, en fait, qui a perduré jusqu'à ce que je considère quand même comme un vrai événement historique dans le champ du rap. C'est sous l'égide de Jules, le Classico organisé en 2021, je crois, qui est quand même le premier projet à réunir autant de rappeurs et de rappeuses de Paris et Marseille pour travailler collectivement sur un morceau. Donc je pense que le rôle du Classico organisé, même s'il a été, je pense, moins écouté que bande organisée, est pour moi pas négligeable. Et par ailleurs, on retrouve aussi cette considération-là quand on écoute des rappeurs belges. Je pense au groupe Lors du commun, dans un de ses morceaux qui dit on cherche à lutter contre l'hégémonie de la scène parisienne. Donc il y a vraiment un petit peu cette idée de la centralité de Paris pour la pratique du rap et de comment est-ce qu'on va se positionner lorsqu'on est en marge de la ville.
Mais qu'est-ce qu'il a de différent? Par exemple, le rap belge, il est plus excentrique que le rap français. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça?
Je sais pas si j'arrive à déterminer des critères objectifs qui différencient le rap parisien du rap belge, du rap marseillais. Peut-être le rap marseillais, je pense vraiment que sous l'égide de Jules a trouvé vraiment une patte bien à lui, bien particulière.
N'oublie pas aussi le rap suisse quand même.
Oui, le rap suisse, oui.
Ah non, mais ça doit être génial. Non, mais les rappeurs suisses, ça doit être quelque chose, non?
On a de très bons rappeurs et de très très bonnes rappeuses en Suisse romande, effectivement.
En Suisse romande.
Mm-hmm.
Et alors, ils jouent quoi devant les bijouteries? Qu'est-ce qu'ils font devant les banques?
Non, je crois que c'est des artistes qui défendent bien leur street cred, comme on dit. Bah, c'est rigolo, à Genève, par exemple, il y a Makala, je crois, qui a quand même une reconnaissance internationale. À Lausanne, moi je connais surtout des rappeuses lausannoises, par exemple, ouais. Bad Ney ou Vivies Panther, SO, les rappeuses lausannoises, comme on dit.
J'en profite, c'est vrai, parlons des rappeuses, qu'on a beaucoup citées, oui. d'hommes, mais par exemple dans l'émission par laquelle on a commencé, La Nouvelle École, dans la nouvelle saison, il y a une rappeuse qui a fait sensation, qui s'appelle Deux Ailes, et qui a mis tout le monde d'accord. Et c'est vrai qu'il faut parler aussi de toute cette scène des rappeuses, et qui reprennent, on parlait tout à l'heure de la violence verbale, qui reprennent et transforment toutes ces insultes. Il y a un très beau documentaire là-dessus que je conseille à nos auditeurs et à nos auditrices, qui s'appelle Bad Bitch. C'est un documentaire produit par Grunt, qui est réalisé par Moran Aubert, et qui retrace toute l'utilisation de ces insultes et la réappropriation par les rappeuses.
Et je tiens à dire, et je m'en excuse, d'ailleurs je demande pardon à Mathieu Noël, qui est suisse et qui est sur la même chaîne que moi, donc je n'en veux pas du tout aux Suisses, j'aime la Suisse, hein. N'allez pas, ne m'écrivez pas pour me dire comment ça, vous nous avez insultés, c'était pas du tout ça. Alors après IAM à Marseille, on file à Bordeaux.
Ça fait trop longtemps qu'il y a le rap, et en fait tu te rends compte que avec les années, et sans le vouloir, hein, vraiment c'est pas une volonté, mais en fait tout mon entourage, il est lié à la musique. Je me rends compte que mon meilleur ami, c'est un rappeur. Je me rends compte que tous mes amis, il y en a un qui est DJ, l'autre il fait des prods, et en fait, parce qu'on est tellement piqué par ce truc-là, qu'en fait le rap, il est là tout le temps. C'est-à-dire que même quand l'artiste barbu, c'est pas une posture. Et c'est pour ça aussi que je montre rarement mon visage et tout ça. C'est que c'est pas une posture. On est comme ça. Et on peut pas être autrement. C'est trop ancré, en fait. C'est trop à l'intérieur.
C'était barbu en personne. Alors, l'artiste, quand il dit l'artiste, c'est pas une posture. Est-ce que, y en a bien qui ont quand même un peu plus un ego que d'autres, non? Ou je me trompe?
Est-ce que, du coup, artiste, ego et posture, c'est à envisager sur un même plan? Je suis pas sûre. Je pense que l'ego fait vraiment partie du rap. Hein. L'ego trip, c'est vraiment, c'est comme un baptême du feu, je pense, pour un rappeur, hein, de sortir un bon morceau ego trip qui kick bien, comme on dit. Ça veut dire qu'est technique, qu'est difficile à exécuter, etc. Je pense que ça fait vraiment partie de, voilà, des étapes ritualisées pour trouver sa légitimité. Mais je pense aussi que la posture, c'est tout autre chose. Mmh. Et que il y a de très nombreux artistes rap qui investissent ça de manière très créative. Je pense à, par exemple, Laylo, qui a fait de sa démarche de construction de sa posture un truc très total. L'album Trinity, par exemple, donc Trinity qui est une référence à Matrix, est un des premiers albums de rap, si je me trompe pas, dont les prods, donc les instrumentations, sont entièrement électroniques. Donc où il n'y a pas de sample à proprement parler. Et tout l'album est travaillé par une voix qui imite en fait la voix d'une intelligence artificielle. Et donc la posture de Laylo de se présenter comme un automate, comme faisant partie en fait d'un univers qui est préécrit, prédicté, elle déborde complètement de ses chansons, de sa manière de se présenter en public.
Mais cette distance, c'est aussi une forme d'humour, non ?
Oui.
Oui, c'est sûr.
D'humour, mais aussi, je pense qu'on reconnaît pas assez la capacité des rappeurs à inventer des personnages aussi. Hein. Il y a de la fiction, on parlait de SCH. SCH a créé une trilogie, a inventé un personnage qui s'appelle Julius, où il raconte une histoire en faisant... Alors moi, j'appellerais pas ça un ego trip, hein, ce serait plutôt un alter ego trip. Ce serait, je construis un personnage et puis je vais essayer de suivre son histoire, même si... la vie privée de SCH et sa fiction se croisent parce qu'évidemment il a perdu son père. Je pense que la trilogie et la conclusion, le dernier album pour moi est une méditation sur l'idée de deuil. Et le deuil de perdre quelqu'un qui nous est proche, mais aussi d'en finir avec sa propre trilogie et son propre projet créatif, parce que c'était le dernier volet, en fait.
Mais le jeu du rap, c'est quel jeu, en fait ? À quelle personne réelle ça se réfère ? Est-ce qu'il faut dire un je ? Est-ce qu'il faut dire un tu ? Est-ce qu'il faut dire un on, un moi, un eux ? Éclairez-nous.
Je pense qu'il y a plein de manières d'envisager la question du « je » dans le rap. Une première manière de l'envisager, ce serait de dire que le « je » il circule beaucoup. Que souvent, en fait, on raconte une histoire dans le rap, on fait état d'une intériorité, et que c'est très rare que le « je » il tienne plus de quelques vers. C'est-à-dire, souvent, on a un vers qui commence en « je », qui continue en « on » et qui se termine en « nous » pour s'opposer à un « e ». Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très spécifique au rap, ce fonctionnement énonciatif-là, de vraiment chercher constamment à rallier d'autres identités et des collectivités, en fait, à un parcours biographique lorsqu'on le raconte. Et je pense que ça implique autre chose, qui est que le jeu du rap, selon moi, il gagnerait à être envisagé par le prisme, on l'évoquait tout à l'heure, de la question de l'authenticité. Le jeu dans le rap, je pense pas que c'est un jeu... nécessairement strictement autobiographique, dont on doit pouvoir vérifier les événements en allant voir dans la biographie des personnes civiles. Je pense plutôt que c'est un jeu qui est un pacte passé avec l'auditeur.
Et peut-être, mais c'est un jeu des tripes, non aussi.
C'est un jeu des tripes, c'est un jeu partagé, et je pense que c'est un jeu qui dit que quelque chose doit sonner vrai sans être vérifiable. Et la phrase qui explique le mieux ça, je trouve, c'est la phrase de Soso Maness dans le morceau qui s'appelle Mistral, dans lequel il dit « Quand je rappe, poteau, tu sens la vérité et l'authenticité de mes fables ». Et je trouve la tournure oxymorique très, très explicite, et elle donne une belle image à ce que c'est pour moi la première personne dans le rap.
Daniel Adjaran.
Oui, je pense que cette authenticité, c'est l'authenticité d'un affect, en fait, d'un sentiment, d'une douleur. On parlait de souffrance, on a entendu Nas tout à l'heure, il parlait de faire des composition of pain, des compositions de douleur. Donc en fait, on doit sortir une violence qui a été incorporée, qui vient de plein de choses, tout dépend de sa vie, de son milieu, et la transfigurer pour qu'elle ne nous empoisonne pas. Pour que ce ne soit pas de l'arsenic, mais que ça fasse un art sonique. Et je pense que cette violence qu'on ressent, elle devient autre chose dans les mots, d'où l'utilisation des insultes qui sont transfigurées, elles aussi. Et pour donner un exemple, faudrait trouver un mot une phrase qui nous rappelle tout ça. Si ce sont des compositions, ce sont des tableaux, je pense encore à une phrase de Souffrance. Il parle de la violence policière qu'il subit, et il dit « les flics me plaque, me colle au mur. Je suis un Banksy. Banksy, voilà. En fait, c'est que il part de sa situation, il lui est arrivé quelque chose de terrible, et puis en fait, il va le transformer en mots, le mettre sur le mur et devenir une œuvre d'art comme au Louvre. Quand je l'ouvre, c'est comme le Louvre, quoi. Il le dit littéralement ça.
Mais c'est aussi une question de survie, non? Un peu.
D'exprimer beaucoup. Les affects négatifs? Sans doute, oui. Et c'est une question de survie, et je pense que. À nouveau, le rap le montre. Enfin, le genre du rap donne une très bonne image de ça aussi dans les thèmes qui sont abordés et la manière de représenter le monde social, notamment parce que en fait, dans le rap du deuxième qu'on appelle du deuxième âge d'or, c'est-à-dire de 2015 à aujourd'hui à peu près, je dirais. Je sais pas si t'es d'accord avec ça.
Moi. Il fait oui de la tête.
Ouais.
Je pense qu'il est d'accord. C'est pas radiophonique de faire juste un signe, un geste. Enfin, franchement.
Dans le rap du deuxième âge d'or, on voit apparaître la mention très fréquente de ce qu'on pourrait appeler des parcours de vie alternatifs. Donc le fait de réussir sa vie, souvent il y a trois domaines, il y a le deal, le sport, comme le foot, et la musique. Et je pense qu'une manière de transfigurer cette souffrance dans le rap, c'est de revendiquer le fait de réussir économiquement sa vie en passant par des canaux d'emploi alternatifs et qui ne passent ni par l'institution scolaire, ni par le salariat traditionnel. Et on pourrait lire ensemble ces choses-là comme une vraie critique de la méritocratie et, comme tu le disais, en fait, des affects négatifs que crée cette idéal méritocratique sur les individus.
Je hochais la tête parce que je réfléchissais en même temps à la question, c'est une question de survie. Je pense que pour certains, littéralement oui, hein. Je pensais à l'album là dont je parlais de Petite Sœur FM Togo, je pense qu'en les écoutant, s'ils n'avaient pas fait du rap, je ne sais pas, on a l'impression que c'est vraiment une question de survie. Hein.
Vous êtes bien sur France Inter et c'est leur philo que vous écoutez.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Doji?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's yeah. Been a minute, yeah.
I've been getting some calls.
Oh.
People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turn a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox. But we ain't got time to stop, the charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say? The shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned. Whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup beans.
Whoa. Okay, Doji. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, okay. You breathe, alright? Let's go.
Giulia Cella, il n'y a pas mieux que vous pour dire ce qu'on vient d'entendre et nous en parler, parce que vous le connaissez certainement mieux que moi en tout cas.
Oui, c'était un extrait d'un morceau de la rappeuse américaine, Doechii, dans laquelle elle, on entend en fait deux personnages interagir l'une avec l'autre, dont la première pose la question « Mais dis-moi comment ça va vraiment ?» Et on parlait de survie tout à l'heure, c'est vraiment un assez beau morceau sur la question de la santé mentale. La première fois que je l'ai écouté, j'étais sûre que c'était Doechii qui faisait les deux voix. Et en fait, j'ai vu une version live de cette chanson. Il se trouve que je crois que c'est une de ces backeuses, comme on dit, qui fait la deuxième voix. Mais voilà.
Qui une backeuse, c'est quoi exactement? C'est celle qui.
Un backer. Ou une backeuse, dans les concerts de rap, souvent, c'est d'autres artistes qui rappent et qui viennent, en fait, terminer les phrases avec le rappeur principal, comme pour, en fait, marquer rythmiquement la fin d'un vers. Donc voilà.
Et il y a quand même une grande part de technique, hein, on s'en rend compte, oui. À décortiquer ça.
Ils viennent en soutien aussi, les backers, parce que traditionnellement, bon, ça s'est un peu perdu, heureusement ça revient. Normalement, un rappeur doit tout rapper pendant un concert. Ça a été un peu perdu, on est revenu au playback, mais les meilleurs rappeurs, ils rappent tous leurs textes et c'est long, c'est technique. Il y a des sonorités qui se ressemblent, il y a des rythmes très compliqués. Donc des fois, on a besoin d'un soutien si on n'a plus beaucoup de souffle et on a quelqu'un qui nous aide, quoi, derrière.
Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macère, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de berne en cantat. Comme un goût d'anthrax pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec, foulec chez les mots.
C'était la boulette de Diams.
Alors, Diams, c'était la première femme à chanter du rap en français ?
Non, c'était pas la première.
J'ai dit une bêtise, je me doutais que j'en dirais au moins une dans l'émission.
C'est pas une bêtise, c'est peut-être la première qui est la plus populaire, ouais, connue. Mais on a beaucoup de rappeuses en France. Je pense à Kazé, notamment, qui est très grande rappeuse. Mais il y en a plein d'autres. Diams, elle a marqué l'imaginaire collectif, en fait. C'était déjà une rappeuse extrêmement technique. Depuis les premiers morceaux, elle en avait fait un qui s'appelait Suzy, où elle faisait d'ailleurs un battle comme ce dont on a parlé au début, avec un personnage, donc un alter ego. Et elle s'était fait connaître un peu par ce morceau. Elle a travaillé aussi avec DJ Mehdi, dont on a parlé dans l'émission. Et puis, en fait, elle a eu un succès foudroyant. Et il y a eu vraiment un phénomène, quoi, Diams. C'était... La rappeuse la plus connue. Enfin,
Donc c'est pas un milieu aussi misogyne qu'on le dit, ou bien oui, Giulia Cella.
Sur comment ça fonctionne dans le vrai monde, dans le monde empirique, j'oserais pas me prononcer, mais je pense que comme dans tous les milieux culturels, ça doit pas être très facile. Je sais pas.
Moi, j'ajouterais, je pense que c'est un peu comme partout, pas plus dans le rap qu'ailleurs, mais comme d'habitude, c'est toujours, on nous force à choisir, en fait. Il en faut une, la rappeuse, et puis c'est comme s'il pouvait pas y avoir de diversité.
Il y a quand même beaucoup de mecs qui sont, pardonnez-moi, mais qui sont misogynes dans les rappeurs, non ? Enfin, en tout cas, dans leur texte. Je sais pas comment ils sont dans leur vie, mais dans leur texte.
Ouais, je pense que c'est important de dire qu'il y a une partie de la production du rap qui est misogyne, qu'il y a des propos misogynes dans le rap. Je pense que d'évacuer ça, c'est pas la bonne manière de traiter cette question. Par contre, ce que je trouve intéressant de considérer, c'est que le rap est aussi tributaire de la misogynie du langage. C'est-à-dire que, comme on l'évoquait tout à l'heure, les insultes sont toujours en fait féminisées. C'est-à-dire qu'on a très peu d'insultes en fait qui ne s'adressent pas à des personnes d'expression de genre féminin. Ça, c'est important de le rappeler. Et puis par ailleurs, je maintiens que le rap est misogyne comme l'est toute production culturelle, dans les mêmes proportions que toute production culturelle.
Et juste un mot, de toute façon, vous n'en direz pas plus, Daniel Algérat, parce que c'est pas forcément ce dont vous avez envie de parler, mais quand on dit que les rappeurs sont pas tous, disons, archi-recommandables, il y en a quand même quelques-uns qui ont fait un tour par la casse-prison. En fait, c'est une toute petite minorité.
J'ai pas les statistiques, je me prétendrai pas répondre à ce genre de questions, mais c'est clair que si le rap, en tout cas à l'origine, émergent dans des conditions sociales qui sont sociologiquement défavorables. On parlait de NAS, etc. Il y a beaucoup de violence. Et donc, bah, statistiquement, on parlait de NAS, oui, il peut y avoir de la drogue, il peut y avoir des crimes, il peut y avoir des meurtres. NAS, le titre de son album, c'est... Ilmatic, ça fait référence à son meilleur ami Il, qui a été tué à l'arme automatique. Donc évidemment, je ne vais pas nier ça, mais c'est dû aussi à l'origine sociale qui fait que statistiquement, on a plus de chances de se retrouver à la case prison.
Et c'est précisément de ces assignations-là, je crois, qu'il est question dans le rap souvent, en fait. En décrivant avec détail le fond, je pense à des exemples, mais c'est très souvent le cas chez SCH ou chez Fritz Corleone, le détail en fait de description du fonctionnement effectif de ce qu'on peut appeler des économies parallèles. Pour moi, c'est une vraie revendication en fait de le décrire et de le montrer comme une alternative véritable. En fait, ça montre que les emplois déqualifiés auxquels sont normalement assignés les jeunes de banlieue, pour utiliser une expression un petit peu rapide. Donc en fait, c'est un vrai problème. Et c'est précisément ce qui fait, selon moi, la colonne vertébrale de la pratique du rap.
Eh bien, nous voilà moins ignorants. Grâce à vous, Giulia Cella, Le rap, littérature du monde social. C'est publié chez Archipel Essai. Et Daniela Gerard, Punchlines, la richesse d'une énonciation. C'est publié aux éditions Le Mot et le Reste. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci infiniment.